Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur le podcast Ivoire Talent, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire d'informations et de partage d'expériences sur les sujets brûlants de la vie active et professionnelle. Je suis Marc Landry, votre humble serviteur, et j'anime ce podcast avec mon colistier Franck. Comment tu vas, Franck?
Hello Landry, hello à tous nos auditeurs, je vais très bien, très très bien, malgré ce climat un peu morose, mais ça va. Et toi-même?
Oh, je vais bien, je suis confiné, mais je vais bien, grâce à Dieu. Alors,
D'accord.
Franck, qu'est-ce que nous avons au menu aujourd'hui?
Alors au menu et dans la continuité de notre promesse, nous avons souhaité faire cet épisode-là spécial dans l'optique et dans la continuité de l'esprit du podcast. Et pour cet épisode, nous avons un invité très spécial, un invité qui nous a fait l'amitié, la générosité de nous recevoir. Et comme il est de coutume, je vais vous raconter la petite histoire de l'invité. Notre invité est un Ivoirien, un pur jus, pur fruit de l'éducation ivoirienne. Il est allé jusqu'à la licence en physique-chimie à l'université de Cocody. Et par la suite, grâce à une bourse, il a poursuivi ses études en Chine, où il a obtenu un Master of Science en Information System and Technology. En 2010, notre invité est revenu en Côte d'Ivoire, sa terre natale, où il a travaillé dans une grande entreprise de télécommunications chinoise. Et après 3 années de travail ici en Côte d'Ivoire, où il a travaillé sur plusieurs projets avec des opérateurs de la Côte d'Ivoire, il décide de retourner en Chine. Et depuis donc 2013, notre invité est résident en Chine, il habite en Chine, où il a toute sa famille et son nouvel emploi. Aujourd'hui, notre invité veut partager avec nous son expérience du coronavirus COVID-19. Étant donné qu'il habite à Wuhan, Wuhan, on le sait tous, est l'épicentre de d'où est venue cette épidémie mondiale. Aujourd'hui, notre invité veut partager avec nous son expérience et il a accepté également de répondre à nos préoccupations, aux préoccupations que vous tous, que nous tous, nous pouvons avoir face à cette crise sanitaire. Bienvenue, Ange Pré. Bienvenue sur le podcast Ivoire Talent et encore merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup. Merci pour cette belle présentation. Je salue tous vos auditeurs et je vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez afin que nous puissions partager notre vécu et notre expérience sur cette épidémie ou bien cette pandémie, parce que c'est devenu une pandémie maintenant, à nos très chers Ivoiriens pour sauver au maximum des vies. Je suis, pour ma part, entièrement disposé à répondre à toutes vos préoccupations.
Super, ce qui nous lance automatiquement dans le vif du sujet. Moi, j'aimerais te demander, Ange, peux-tu nous parler un peu de la ville de Wuhan? À quelle ville de Côte d'Ivoire cette ville-là pourrait être comparée?
La ville de Wuhan, c'est une ville très très moderne. Et dans le cas de la comparaison, je ne sais pas, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une seule ville qui peut être comparée à Wuhan. Parce que c'est une ville très grande et très 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 développée. C'est un peu le centre technologique du futur de la Chine. Parce
Wow.
que quand on voit les planifications du gouvernement chinois, la ville de Wuhan, à l'horizon 2023-2025, sera le hub technologique des inventions technologiques en Chine. Et Wuhan est la terre qui accueille beaucoup d'entreprises de télécommunications, de centres de recherche, de compagnies d'automobiles comme Peugeot, comme Cadillac et j'en passe. Et Wuhan, au plan de la ville, je pense qu'on peut la comparer un peu à New York, parce que c'est vraiment grand. Wuhan, c'est vraiment grand. Et il y a beaucoup de gratte-ciel. Bon, je ne sais pas. C'est un quartier de Wuhan qu'on peut comparer à Abidjan. Hein.
Du genre, il y a aussi il y a l'océan qui passe à côté, il y a, je sais pas,
Oui,
peut-être.
Wuhan, c'est au centre de la Chine. C'est au centre, comme un pays baoulé.
Oh,
Je
ok.
pense que là, Monsieur Fadé, il se retrouve un peu. C'est un pays baoulé, en Chine. C'est au centre de la Chine. Donc, Wuhan a un peu une caractéristique similaire à la ville d'Abidjan, en ce sens que il y a un fleuve qui traverse et qui coupe la ville en deux, comme la ville d'Abidjan. Donc à Oran, on a aussi ce même scénario sur ce plan-là. Donc on a un fleuve et ce fleuve relie toute la Chine. Ce fleuve s'appelle Yangtze River et il relie pratiquement Shanghai et plein plein d'autres villes chinoises. Et il y a plusieurs ponts qui font la connexion entre les différentes parties de Oran, comme à Abidjan. Comme à Abidjan, on a le plateau, on a 13 villes, voilà, on a Cocody, on a aussi Makori à côté, on a les ponts là qui relient. Wuhan aussi, c'est la même chose comme ça, mais en plus développé quoi.
Oh, yes.
Wow. Ok. Donc il y a un peu de New York et un peu de pays baoulé, c'est intéressant tout ça. Donc merci, on voit un peu comment c'est Wuhan. Et tu vois, lorsque tu as présenté Wuhan, moi je me suis projeté en même temps dans quelque chose qui ressemblerait à la Silicon Valley de la Chine et tout. Mais comment est-ce que dans une ville high-tech, le futur hub technologique de la Chine, comment est-ce que la crise sanitaire a démarré là-bas? Peux-tu nous raconter comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que ça a démarré chez vous?
Oui, la crise a démarré déjà en décembre, hein, vers fin décembre. On recevait des notifications de la presse sur notre téléphone nous disant qu'il y avait une nouvelle maladie qui faisait rage dans la ville. Mais on nous disait en ce temps-là, fin décembre, on nous disait en ce temps-là que la maladie ne se transmettait pas d'homme à homme, donc qu'il n'y avait pas de danger. Donc on continuait nos activités normalement. Il y avait ce lieu-là, je pense que vous avez un peu lu dans la presse, ce lieu qu'on appelle le marché aux poissons ou bien le marché aux animaux sauvages, je ne sais pas comment on appelle ça en français, qui avait été identifié comme le point de départ du virus. Voilà, donc c'est ce qu'on avait reçu comme information ici vers fin décembre, que si tu ne voulais pas contacter la maladie, il ne fallait pas aller vers ce marché-là. Donc on évitait simplement d'aller vers le marché, puisque la transmission ne se faisait pas d'homme à homme. Donc on a vécu dans ça jusqu'à janvier, début janvier. Bon, vers le 15 janvier, les cas ont commencé à augmenter. Et il y a eu une délégation d'officiels chinois qui sont plus poussés dans la gestion des maladies infectieuses. Donc, ils ont fait un rapport le 15 janvier. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à savoir que la maladie se transmettait d'homme à homme. Mais malgré ça, on allait quand même au travail. On nous disait simplement de porter des masques et de ne pas rendre visite à nos connaissances, de se distancer un peu de la société, de vivre un peu de façon isolée, quoi. Voilà, d'éviter les contacts et tout et tout. Et malgré toutes ces mesures, les cas augmentaient toujours. Donc, c'est vers le 23 janvier que la gravité de la situation a été saisie par le comité central du gouvernement chinois qui a bloqué la ville. Comment on appelle ça? On appelle ça le lockdown en anglais. Donc, on a fermé totalement la ville. Les transports ont été fermés. Les entreprises ont été fermées. En fait, tout ce qui est non nécessaire a été fermé. les hôpitaux, les pharmacies et les supermarchés sont restés ouverts. Et la période du 23 janvier coïncidait avec le Nouvel An chinois. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la ville de Wuhan, qui sont sorties de la ville, puisque le Nouvel An chinois, il y a beaucoup de travailleurs migrants chinois qui vont dans leur province. Donc, il y a près de 50 provinces en Chine. Donc, tous ces infectés-là, ou bien ces potentiels infectés, ont quitté Wuhan avant le lockdown. Donc, toute la propagation dans le reste de la Chine. Donc, maintenant, sur l'origine de la maladie, elle a commencé comme je l'ai décrit tout à l'heure, mais à proprement dit, on ne sait pas comment c'est apparu. Parce qu'il y a tellement de théories, on nous dit non, que ça a commencé dans le marché, il y a d'autres qui disent non, ça a commencé avec une invasion secrète des militaires américains, parce qu'il faut le dire aussi, il faut le dire que Wuhan a abrité des jeux militaires en octobre 2019, et ces jeux militaires-là sont terminés vers fin octobre. Donc, la coïncidence du début de l'épidémie et de la fin des jeux militaires fait dire que ça peut être venu de l'armée américaine. Donc, il y a deux scénarios plausibles. Pour le moment, personne ne sait d'où vient cette maladie.
Surtout avec la guerre économique entre la Chine et puis les États-Unis. Bon.
Ah oui, c'est aussi ça. C'est aussi ça.
Franchement, c'est très bien expliqué avec assez de détails. Nous sommes un peu plus informés sur le démarrage de la crise à Wuhan. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu as eu des proches qui ont été touchés par ce virus, des connaissances?
Des proches, heureusement, non. Mais des connaissances, des collègues. J'ai eu un collègue qui a été infecté. Mais il s'est remis après. Après. J'ai aussi un autre ami qui a eu ses beaux-parents aussi infectés. Ils s'en sont aussi remis. Donc, pour dire que ce n'est pas quelque chose d'effrayant, c'est une maladie comme tout autre. Seulement qu'elle est nouvelle et elle fait beaucoup le buzz. Donc, ils ont eu de la fièvre et ils sont à l'hôpital. Et ils ont été pris en charge, donc maintenant, ils vont bien. Mais des proches, comme au niveau de la famille nucléaire, non, on n'en a pas eu.
Je merci, alors. Et tu sais, Ange, pendant cette période, il y avait des vidéos qui circulaient où on montrait comment la Chine avait construit en un temps record, je crois en moins de 2 semaines.
C'était 10 jours. 10 jours, c'était voilà. 10 jours, effectivement, l'hôpital de Wuhan.
L'hôpital. Donc, est-ce que tu confirmes? Et puis aussi, j'aimerais te demander comment est-ce que tu as vécu cette crise-là d'un point de vue social, d'un point de vue professionnel également.
Ok. La dernière question, c'est comment j'ai vécu cette crise-là d'un point de vue social et économique, c'est ça?
Voilà, économique, c'est ça. Parce que je suppose qu'arrivé un moment, il y avait des difficultés pour aller au travail. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Comment est-ce que... En fait, l'idée derrière, c'est quel est le plan qui a été mis en place par le gouvernement chinois? Moi, j'ai juste cité l'exemple de l'hôpital qui a été construit en 10 jours, parce que pour nous, c'était vraiment un exploit. Mais au-delà de cet hôpital-là, quel est le plan qui a été mis en place? Et comment est-ce que tu l'as vécu économiquement, professionnellement et socialement?
Ok, j'ai bien saisi la question. Bon, je pars d'abord sur les mesures des gouvernants chinois. Construire un hôpital en 10 jours, c'est quelque chose vraiment d'inimaginable pour nous, Africains. Mais il faut dire qu'en Chine, déjà, il y a une base qui est créée. De sorte qu'aujourd'hui, il y a une évolution dans les systèmes de construction. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. On appelle les préfabriqués. C'est un système de construction dans lequel la structure des maisons est déjà faite. On ne vient seulement que visser la maison sur une fondation.
Wow.
Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ce système-là qui a été appliqué pour les hôpitaux. Il y en a eu deux qu'on a construit en 10 jours, en fait. C'est des hôpitaux préfabriqués qui ont été vissés sur une fondation. Bon, c'est quelque chose de nouveau et c'est quelque chose de novateur. Effectivement, dans leur plan pour juguler cette pandémie, ils ont fait en sorte à créer les lits d'hôpitaux parce qu'il n'y avait pas de lits pour les nombreux malades. Dans la ville de Wuhan, il n'y a que peut-être 4 hôpitaux qui sont vraiment outillés pour faire face à ce genre de pandémie et puis à ce genre d'afflux de malades. Donc, ces 4 hôpitaux réunis faisaient au moins 200 à 600 lits pour s'occuper des malades. Et sans compter les autres maladies traditionnelles qu'on a, parce que les gens aussi ont leur toux, les gens ont leur comment on appelle ça, leur rhume, et ainsi de suite. Et ça s'en ajoute le COVID. Donc, il fallait créer 3000 lits d'hôpitaux là rapidement. Et c'est dans ce sens-là qu'ils ont fait construire cet hôpital-là. Donc, ça, c'est un pan sur le volet de décongestion de l'accueil au niveau des hôpitaux. Le deuxième plan, c'était d'attaquer effectivement la maladie, l'expansion de la maladie au sein de la population. La première mesure qui a été prise dans ce deuxième volet, c'était le lockdown. Donc, fermer les services non nécessaires, les écoles, le transport, les entreprises, et garder les services nécessaires pour monitorer la situation et voir comment l'expansion de la maladie évolue. Donc, après 2 semaines, il y avait beaucoup d'infectés. On s'est rendu compte que ces mesures-là ne freinaient pas l'épidémie. Donc, ils sont allés à un deuxième volet pour serrer encore la ceinture, fermer totalement les supermarchés et fermer les différents logements. C'est-à-dire, en Chine, ici, on habite tous dans les buildings. On a tous des buildings de 2 étages et autres. Et on a une seule sortie au rez-de-chaussée qui est gardée par des agents de sécurité ou souvent par les gens du Parti communiste, et bon, ainsi de suite. Donc, ils ont décidé maintenant d'enfermer tout le monde à la maison. Donc, la seule sortie de ton building s'est vue condamnée par un cadenas. Donc, wow. Tu ne peux plus sortir, tu es obligé de rester dans la maison. Donc, c'était la deuxième mesure. La troisième mesure, c'était d'extirper les contaminés et d'isoler leurs contacts immédiats. Donc, je prends un exemple. Si je ne vais pas prendre l'exemple de nommer quelqu'un, hein, si X vit dans une maison avec ABCD et que X est découvert contaminé du coronavirus, X sera extrait du domicile et placé dans un hôpital pour les soins et ABCD, ses liens directs, seront isolés dans un autre centre de confinement qu'on a appelé ici des centres d'isolement, voire suivre s'ils ont été contaminés ou pas. Donc, c'est en faisant ce traçage-là que beaucoup de personnes potentiellement infectées et des personnes infectées avec leur contact ont pu être isolées sur une période peut-être de 5 semaines comme ça. Et après ces 5 semaines-là, les cas ont commencé à baisser parce que la chaîne de transmission de la maladie a été cassée comme ça. Parce que vous savez que le COVID, si quelqu'un dans ton entourage est infecté, il peut infecter 3 à 4 personnes en même temps.
Exactement.
Donc, dès qu'on découvre que quelqu'un est infecté, son entourage immédiat doit être isolé automatiquement. Et on doit intensifier les tests. Donc, les tests aussi ont été intensifiés pour pouvoir savoir qui est infecté, qui doit être mis dans le centre d'isolement, qui doit être mis à l'hôpital, et ainsi de suite. Il y a eu même des salles des gymnases, des stades, même des dortoirs des universités qui ont été transformés en centres d'isolement, tellement il y en avait des personnes en contact avec des patients COVID. Donc ça, c'est pour vous donner un peu l'ampleur de ces contacts avec les personnes infectées qu'il faut isoler. En quatrième plan, c'est sur le plan social et économique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont fermé les portes des différents buildings, de sorte que personne ne pouvait sortir faire ses courses. Donc, ils ont mis en place une organisation pour pouvoir approvisionner les familles en nourriture, voilà, en eau, et puis bon, en besoin nécessaire. Okay. Vous savez, en Chine, on est dans un système communiste. Donc, il y a des volontaires du Parti communiste qui sont un peu partout dans la ville. Dans toutes les provinces, dans toutes les villes de Chine, il y a toujours des gens du Parti communiste quelque part qui gèrent quelque chose. Et on est regroupés ici en communauté, en fait. Chaque communauté. Donc, tu vis dans un quartier, mais tu appartiens à une communauté du Parti communiste qui est gérée par une entité du Parti communiste. Est-ce que vous voyez? Donc, puisqu'on est rattaché aux communautés, l'ordre qui vient d'en haut est directement donné aux communautés de prendre en charge les résidents. Donc, les communautés vont se débrouiller pour prendre en charge les résidents. Donc, les chefs de communauté se mettent à la disposition des résidents pour tous les besoins, que ce soit alimentaire, que ce soit médicaments, et ainsi de suite. Et ce qui est plus intéressant ici, c'est qu'on a, la possibilité de faire des achats en ligne. Donc, on n'a pas forcément besoin d'aller au supermarché ou bien d'aller à la pharmacie pour acheter quelque chose. Donc, il y avait plusieurs logiciels qu'on utilisait. On achetait de la nourriture en ligne, des ingrédients en ligne, et les coursiers travaillaient toujours. Les coursiers, ils travaillaient toujours. Donc, les coursiers prenaient nos commandes, les remettaient à notre communauté, et notre communauté nous le donnait. Donc, de sorte que nous, on ne sort plus. C'est seulement les coursiers et les responsables de la communauté qui sortent.
Qui sont dehors. OK.
Voilà. Donc, cela réduit de façon drastique le mouvement du virus.
Wow, donc, ça voilà,
c'est ça. En quelque sorte, comment ils ont essayé de juguler cette pandémie-là.
Wow, mais moi j'ai une question parce que vous avez été confiné, le lockdown, tout était fermé comme tu as dit, mais vous avez été enfermé pendant combien de temps environ? Parce que j'ai cru voir 2 mois, je ne sais pas si c'est exact.
Du 23 janvier, parce que c'est le 23 janvier que ça a commencé, le 23 janvier le lockdown est tombé, jusqu'à aujourd'hui on est toujours dans le lockdown, on n'a pas encore sorti du lockdown.
Wow, donc comment tu fais pour travailler? Vous travaillez de la, bon, tu es dans la technologie, donc sûrement que tu travailles forcément de la maison, mais certaines autres entreprises ont été impactées sûrement.
Bon, je pense que c'est jusqu'à la semaine passée, hein. La semaine passée que nous on a repris, hein. Nous on a repris la semaine passée. Okay. Mais avant ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, toutes les entreprises ont été fermées. Personne ne travaillait.
Wow.
Personne. Même les petits commerces, personne ne travaillait. Sauf les entreprises qui produisaient les masques et les tenues d'isolation des médecins qu'on voit souvent là, les tenues qui font peur. Seules ces entreprises-là travaillaient. Mais à part ça, tout le reste, personne ne travaillait. Donc les PME, ceux qui se débrouillent pour vendre des choses par elles-mêmes, pour vivre au jour le jour, personne ne travaille.
Monsieur, là, comment ils ont été pris en charge, ces personnes qui vivent au jour le jour?
Mais ce qui est intéressant ici, c'est que la pandémie là est tombée dans la période du Nouvel An. Et dans la période du Nouvel An, les Chinois ne travaillent pas.
Ok.
Donc ça les a beaucoup aidés. Donc je pense que il n'y a pas eu vraiment de prise en charge spécifique, puisque eux tous ils avaient déjà fait les stocks. Nous-mêmes on avait déjà fait nos stocks, hein, parce que quand c'est le Nouvel An chinois, personne ne travaille, hein. C'est 2 semaines de fête.
Voilà.
Donc je pense que les PME et ceux qui se débrouillent au jour le jour ont dû faire des stocks, voilà, dépenser leur économie pendant cette période-là. Ça a aussi facilité le lockdown. Maintenant, il y a aussi eu des mesures qui ont été prises pour essayer d'assouplir les impôts, les locations de bureaux et autres, les charges des entreprises. Donc, il y a des charges d'entreprises qui ont été annulées, les impôts, des mesures de soutien en crédit des journaliers, des privés, des PME, tout et tout. Il y a des mesures d'accompagnement, en fait, pour soutenir un peu l'activité économique de ces gens-là. Donc, toutes les entreprises ont droit à des crédits qui sont facilités. Ils ont droit à un soutien, une réduction des impôts, ou voire même une annulation des impôts. Et bon, les locataires de maisons, par exemple, ne payent pas le loyer peut-être pour 2 mois. Bon, voilà, des mesures comme ça.
Wow.
Je tiens à préciser que le lockdown va être levé le 8 avril à Wuhan, ici. Dans le reste de la Chine, bon, tout va bien. Hein, donc, dans le reste de la Chine, il n'y a pas de lockdown. À Hubei, Wuhan, le lockdown va être levé le 8 avril. Mais pendant ce temps, les entreprises, voilà, c'est ça. Pendant ce temps, les entreprises essentielles technologiques, comme celle dans laquelle je travaille, nous, on a commencé à travailler. Mais on travaille en rotation. Je travaille aujourd'hui, je ne travaille pas demain, et ainsi de suite. Juste des mesures de sécurité.
Et puis, je pense que ces mesures ont été salutaires, parce que quand je regarde la population chinoise, qui est environ plus de 1,4 milliard d'habitants, et le nombre de cas que vous avez eu, 82 000 environ, pour 3 000 morts, je pense que voilà, vous avez vraiment su maîtriser cette pandémie-là, parce que les États-Unis, où moi je vis, nous sommes à environ 350 millions d'habitants, mais aujourd'hui nous avons déjà dépassé les 140 000, les 160 000 cas. Et cela même est dû au fait que voilà, bon, plein d'États, plein de villes ne veulent pas, les Américains ne veulent pas rester à la maison, tout et tout. Franchement, je pense que votre exemple est à suivre à la lettre, quoi.
Oui, je pense. Moi, je suis un peu les médias, CNN, les Français, là, les France 24 et autres. Il y a beaucoup de discussions de liberté, de droit. Bon, exactement. Je pense que face à ce virus-là, il n'y a pas de droit. Il faut sauver la vie. Une note du président ghanéen qui disait qu'on sait comment sauver l'économie, mais on ne sait pas comment ramener quelqu'un à la vie.
Exactement.
Donc, c'est ça. Donc, vous parlez de liberté, ce qui est légal et autres, mais entre-temps, la maladie, elle va continuer à se propager sur une longue période. Donc, les États-Unis, comme ça, sont partis pour au moins 6 mois d'infection et de maladie. Il faut stopper tout. Il faut confiner les gens à la maison, stopper tout pour au moins 2 mois, et puis bon, tout est fini.
Ah, okay. Franchement.
Avec tout ce vécu là, avec tout ce vécu depuis le 23 janvier jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire qu'il y aura un avant coronavirus 19 et un après coronavirus 19? En d'autres termes, quel enseignement tu tires en fait de cette crise-là, personnellement? Bon.
Oui. Vraiment, il y aura un avant et un après COVID-19. Parce que la manière même de vivre a changé. Vraiment, c'est vraiment. Moi, souvent, ça me donne pas vraiment un bon goût de la vie. Hein, parce que avant, je sortais sans cache-nez, je respirais de façon libre, là. Mais maintenant, je suis obligé de mettre un cache-nez. Quand je vais au travail, je mets un cache-nez du matin au soir. Je bouge ici, je dois laver les mains, je passe par là, on doit mesurer ma température. Vraiment, ça dit que après cette maladie-là, quand ça va. Bon, j'espère qu'on va trouver un vaccin, hein, parce que si on trouve un vaccin, on va revenir à la normale. Mais tant qu'on n'a pas encore trouvé un vaccin, mais on sera. Bon, on ne sera pas libre, hein, on ne sera pas libre de vivre comme avant, où tu vas au restaurant avec tes amis, vous saluez, vous êtes à proximité. Bon, le niveau social même de la vie va disparaître. Bon, ça a déjà disparu même. Parce que tu vois un ami, tu le vois déjà en suspect, parce que tu ne peux pas l'approcher à 1,50 m pour parler avec quelqu'un. Il faut porter un cache-nez. Et même quand tu vas au supermarché acheter des choses, avant de rentrer dans la maison, ceux qui sont dans la maison se disent que peut-être que tu as le virus sur tes habits. Donc, il faut enlever tes habits, il faut nettoyer ce que tu as acheté. Bon, c'est vraiment, l'impact est vraiment grand. L'impact social est très grand.
Ouais.
Donc, voilà ce que j'avais à dire sur ce plan-là.
En tout cas, moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit. Mais maintenant, nous sommes presque à la fin de notre épisode. J'aimerais savoir quel conseil tu pourrais donner à nos frères ivoiriens. Aujourd'hui, nous sommes à un peu plus de 160 cas en Côte d'Ivoire. Quel conseil tu pourrais nous donner afin que nous puissions tenir dans cette crise sanitaire? Parce que nous, on n'a pas les mêmes moyens. La Côte d'Ivoire n'a pas les mêmes moyens que la Chine, que Wuhan. Mais quel conseil tu peux nous donner pour que nos auditeurs aussi puissent prendre leurs précautions? Parce que le problème dans cette maladie-là, c'est que tu peux toi-même te protéger et protéger les autres en respectant les règles d'hygiène et autres. Donc, quel conseil tu peux donner?
Bon, mon conseil, je pense que d'abord ça va aux autorités, hein, parce que c'est d'abord eux qui prennent les décisions qui influent sur la vie des Ivoiriens. Et ça a été démontré partout, hein, ce que je vais dire. Partout où la maladie a commencé, les autorités ont plus ou moins négligé la maladie. Même en Chine. Et pas, quand ça a commencé en Chine, les autorités ont dit non, c'est rien de sérieux. Et bon, et puis après, c'est devenu quelque chose de sérieux. Aux États-Unis aussi, c'est la même chose. C'était The Democrat Fox.
Exactement.
Maintenant, c'est devenu quelque chose de sérieux.
De sérieux.
En Côte d'Ivoire aussi, on n'est pas épargné. Au départ, c'était les confinements qui ont échoué parce que c'est les relations qu'on fait passer avant la santé. Donc, j'aimerais vraiment que les autorités prennent les décisions à temps parce que le virus, il se propage de façon exponentielle. Donc, un retard dans la mise en place des mesures cause une contamination exagérée de la population.
Exactement.
Donc, prenez les autorités, prenez les mesures à temps opportun. Pour les populations, je me dis, pour le moment, on doit s'appliquer à nous-mêmes ces règles d'hygiène promulguées par l'OMS. Laver les mains, se tenir à distance des autres, tousser dans le coude, éternuer dans les mouchoirs, et ainsi de suite. Mais j'ajouterai, éviter les lieux publics, les lieux où il y a une concentration énorme de personnes. Éviter ces lieux-là, ça c'est un point important que les gens ne mentionnent pas souvent. Éviter d'aller rendre visite à vos proches, à vos amis, vivez comme si vous n'avez pas d'amis pour le moment. Travail, maison, maison, travail. Quand vous sortez, portez un masque. Parce que c'est prouvé que le virus tient dans l'air pendant au moins 30 minutes. Donc, ça veut dire quoi? Si quelqu'un est dans un ascenseur, il est contaminé et qu'il a éternué dans l'ascenseur, il est sorti de l'ascenseur et que vous entrez juste après lui, si vous n'avez pas un cache-nez, vous respirez automatiquement le virus. Donc, si vous avez un cache-nez, cela vous prévient de respirer et d'être contaminé. Donc, portez un cache-nez si vous en avez. Si vous n'en avez pas, allez en acheter. C'est très, très important. En Chine, ici, nous tous, on porte le cache-nez. Je vois un peu la situation de la Côte d'Ivoire, hein, parce que nous, on sait que ce truc-là, ça va finir par un confinement exigu. Si les cas infectés ne diminuent pas, si le nombre ne diminue pas, parce qu'aujourd'hui on est à 160, si ça monte à 1, si ça monte à 1000, c'est un lockdown à la Wuhan que les autorités seront obligées de prendre. Et nous savons comment on vit en Côte d'Ivoire. On sait qu'on a des cours communes à Bobo, à Yopougon. Bon, les gens vivent difficilement. Donc moi, je suggérerais au gouvernement ivoirien de mettre l'armée en action. Que l'armée s'occupe des populations pour leurs besoins alimentaires, comme ce qui a été fait en Chine ici. En lieu et place des membres du Parti communiste, que ce soit l'armée qui serve la nourriture aux populations les plus démunies pour éviter que ces populations-là meurent de faim et qu'il y ait autre chose en plus du coronavirus. La dernière suggestion, couper Abidjan, puisque c'est à Abidjan que la maladie est prononcée actuellement. Couper Abidjan du reste du pays, ne permettez à personne d'aller à l'intérieur du pays. Parce qu'on ne sait pas qui a ça, qui n'a pas ça. Il y a plusieurs cas asymptomatiques dans cette maladie-là. En Chine, il y a beaucoup de cas asymptomatiques. Donc, ça veut dire que les gens ont le virus, mais ils ne le savent pas, ils ne développent aucun symptôme. Mais ils peuvent contaminer les gens. Donc, fermez Abidjan, portez les cache-nez, lavez vos mains, évitez les lieux trop concentrés en hommes, et puis faites votre isolement vous-même, n'attendez pas le gouvernement. Exactement. Voilà ce que j'avais à dire.
Et aussi, parce que dans votre cas, vous avez testé de façon intensive, en fait. Et par rapport aux tests, est-ce que le gouvernement, l'État doit pouvoir rendre les tests disponibles et moins chers pour tous ceux qui veulent se faire tester, pour qu'on puisse facilement isoler les cas positifs?
Mais bon, je vais le mentionner. Il y a des tests qui sont approuvés aujourd'hui par le FDA américain, les tests qui font 15 minutes.
15 minutes.
Donc, voilà. Donc, je pense que les gouvernants ivoiriens peuvent se lancer là-dedans, avoir des centres d'accueil des différents cas positifs pour les accueillir au maximum. Donc, c'est vrai, ce que vous avez mentionné, c'est vraiment important. Faites les tests, faites beaucoup de tests. Si vous avez les moyens, achetez des tests de 15 minutes. Et puis, bon, je pense que ça sera facile. Ou juguler le fléau. Mais j'ose croire que la Côte d'Ivoire ou bien l'Afrique sera épargnée, quoi. J'ose croire. Bon. J'espère.
Nous espérons tous. C'est au centre de toutes nos prières.
Notre prière. Parce qu'on
n'est pas prêt. On n'est pas préparé. On n'est pas prêt.
Voilà, c'est pas facile pour nous.
En tout cas, franchement, Ange, ça a été un réel plaisir de t'avoir aujourd'hui. C'est vraiment intéressant et enrichissant pour moi, pour Franck, l'expérience que tu es en train de partager. Je pense que nos gouvernants aussi doivent pouvoir faire ces études-là de ces pays que je peux citer, comme la Chine, comme la Corée du Sud, comme l'Allemagne, qui arrivent tant bien que mal à contenir cette pandémie-là. Étudier comment ces pays l'ont fait pour essayer de les appliquer chez nous. Donc, malheureusement, toute bonne chose a une fin. Nous sommes à la fin de notre enregistrement. Moi-même, je n'ai pas envie de finir maintenant, mais bon, je vais te demander ton mot de fin. Et puis, on va essayer de boucler.
J'aimerais d'abord vous remercier pour cette opportunité parce que vous me donnez l'occasion de communiquer avec de nombreuses personnes qui n'ont pas nécessairement les informations ou qui ne prennent nécessairement pas au sérieux cette histoire de coronavirus, comme certains l'appellent au pays COVID-19. Donc, je vous remercie beaucoup. Et puis, mon mot de fin, c'est que les mesures de protection soient prises même quand on n'est pas malade ou qu'on n'est pas en contact avec quelqu'un d'infecté. Protégeons-nous et que Dieu veille sur notre Afrique.
Amen.
Amen, amen. Eh bien, merci, chers auditeurs. Merci à notre invité du jour. Si vous avez des impressions, vous avez des commentaires, n'oubliez pas de les laisser en bas de cet épisode, en bas de ce podcast. Et aussi partager autour de vous pour que les gens soient informés de la situation et qu'ils puissent prendre les mesures adéquates. C'était Marc Landry et Franck Fadet pour le podcast Ivoire Talent. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode aussi intéressant que celui-ci. À bientôt.